Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec aujourd'hui Ronan Mahé à la technique et préparés par Claire Delnat, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, qui recevra Christian Jambé tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour y parler d'islam, bien entendu. C'est la suite et la fin, déjà pour nous, hélas, de la première semaine que les Nouveaux Chemins auront consacré dans une heure à être et tant ce drôle de chef-d'œuvre. Après Jean-Luc Nancy, Catherine Malabou et Françoise Dastour, c'est aujourd'hui Maxence Caron qui nous accompagne pour cette dernière émission, toujours en compagnie de Philippe Cabestan. Maxence Caron qui vient nous parler de vérité, de l'étrange difficulté qui consiste à associer l'être à la vérité, voire à les identifier.
L'ouvertude est le genre fondamental du Dasein, selon lequel il est son là. L'ouvertude est constituée par la disposibilité, l'entendre et la parole. Et elle intéresse co-originalement le monde, l'être au monde et le soi-même. La structure du souci comme être en avant de soi, tout en étant déjà en un monde, comme être après l'étant intérieur au monde, recèle en elle l'ouverture du Dasein. C'est avec elle et grâce à elle qu'est l'être dévoilé, d'où il suit que c'est seulement avec l'ouverture du Dasein qu'est atteint le phénomène le plus original de la vérité. Dans la mesure où le Dasein est essentiellement son ouverture, où en tant que découvert, il découvre et dévoile, il est essentiellement vrai. Le Dasein est dans la vérité. Cet énoncé a un sens ontologique. Il ne prétend pas que le Dasein soit ontiquement, toujours ou seulement chaque fois introduit dans toute vérité, mais au contraire, que l'ouverture de son être le plus propre appartient à sa constitution existentielle.
Bonjour Maxence Caron.
Bonjour.
Bonjour, rebonjour, rebonjour Philippe Cabestan.
Rebonjour Raphaël.
Et bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins. Bienvenue à tous les deux. Alors on va parler évidemment du statut de la vérité, de cette ontologie de la vérité ou cette vérité de l'ontologie. Je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les termes ici. D'abord, juste un point, précisons à l'intention de nos auditeurs que Daniel Mesguich sait lire. Hein. Ils l'ont entendu et il sait lire les mots notamment. Et il a bien lu « ouvertude ». Et non pas ouverture, pouvez-vous l'un et l'autre dire en peu de mots le sens de cette traduction et de ce néologisme ?
Eh bien, c'est un choix de traduction qui se fonde sur l'allemand Erschlossenheit. Le suffixe Heit en allemand signifie un état. Et M. François Vézin, qui a été chargé de la traduction officielle de Être et Temps...
Est un fan de Ségolène Royal.
Je ne sais pas. En tout cas, il se trouve qu'il a choisi de rendre le suffixe « Heit » par « Ud » pour montrer cet état. Alors, il existe d'autres moyens de traduire. Emmanuel Martineau a traduit de manière tout à fait claire, par ouverture.
C'est ce qu'il semblait.
Oui, et on peut traduire, si on tatillonne un petit peu, par être ouvert, avec un trait d'union à la Sartre. qui en met partout dans être et temps. Donc, comme c'était la mode à une certaine époque, pourquoi ne pas mettre un trait d'union entre être ouvert ? Peut-être que ce serait là.
Autre lapsus, Sartre, c'est l'être et le néant.
L'être et le néant, pardon.
L'être et le néant. Sartre n'a pas écrit être et temps. Mais en revanche, il n'aurait pas écrit l'être et le néant comme il l'a écrit si Heidegger n'avait pas écrit être et temps, peut-être.
Et il n'a pas mis de trait d'union dans son titre, mais en tout cas, pour être ouvert, on pourrait en mettre un.
Oui, alors soyons ouverts. Justement, Philippe Cabestan, que vous inspire, vous, cette ouverture en guise d'être ouvert ?
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ouverture, d'abord, c'est déconcertant. Et puis, est-ce que c'est tellement expressif ? Moi, comme Maxence Caron, je pense que ouverture, c'est très bien, ça suffit. D'autant plus que l'idée, on peut quand même, c'est elle qui compte, c'est pas le mot. Et l'idée qui apparaît tout de suite, c'est le fait que le Dasein, donc l'existant, est ouvert et il est ouvert à l'être. Alors après, cette thématique, on va la retrouver exprimée différemment. Ce sera l'idée de clairière, qui est assez belle aussi, assez poétique. C'est l'idée que le Dasein est clairière de l'être. Mais le fil conducteur de ces différentes formulations, c'est toujours l'idée, alors qui va être le point de départ, je suppose, de notre conversation, c'est l'idée que le Dasein est dans la vérité. Et il est dans la vérité parce que, précisément, et là, il y a une nouveauté du texte heideggerien, une nouveauté de Sein und Zeit, il y a cette idée que le Dasein, eh bien, il est dans la vérité parce qu'il est ouverture, justement. Il est ouverture. Ouverture à quoi ? À l'être. Et comment est-il ouverture à l'être ? Tout simplement parce qu'il est au monde. L'un et l'autre, l'un est inséparable de l'autre. Être au monde, c'est précisément voir devant soi, si je puis m'exprimer de manière un peu approximative, mais c'est secondaire, c'est voir devant soi, se dévoiler les étangs, c'est-à-dire tous ces objets qui sont devant nous, cette table, etc., et voir tous ces objets, ces étangs déployés devant nous, à l'intérieur de ce que Heidegger appelle le monde. Et précisément, être au monde, eh bien, c'est ça l'ouverture.
On est en présence ici d'un genre de beauté tout à fait particulier et qui semble en un sens inaccessible au néophyte, à moins qu'il soit sensible à la valeur poétique de ce qu'il ne saisit pas. Et je voudrais qu'on essaye ensemble, à l'intention de nos auditeurs, d'aller un tout petit peu en amont ou au-delà peut-être de ce sentiment et de creuser un peu ce texte abscon en apparence que Daniel Mesguich vient de nous lire. Pour le dire rapidement, Maxence Caron, Philippe Cabestan, Heidegger revient ou contredit une définition qu'on appelle traditionnelle de la vérité comme adéquatio, c'est-à-dire adéquation de la chose et de l'intellect, ou bien du mot et de la chose, tout simplement. Si je dis table pour désigner une table, je dis la vérité. Voilà donc une définition de la vérité à laquelle il substitue la possibilité d'être dans le vrai, qui est une expression d'ailleurs qu'on emploie bien souvent sans y penser et qui est plus profonde qu'on ne pense. Alors, quelle différence y a-t-il entre la définition classique que vous et moi utilisons au quotidien, dans la quotidienneté, de la vérité, définition traditionnelle de la vérité, vous dites vrai si ce que vous dites correspond à ce qui est, pour le dire rapidement, et le fait d'être dans la vérité à la manière du Dasein, Maxence Caron.
Vous utilisez quotidienneté, je vois que vous parlez déjà à Heidegger.
C'est un effet d'un travail attentif.
Donc, il se trouve que d'être dans la vérité, pour Heidegger, évidemment, c'est rompre avec ce que l'on peut appeler couramment les philosophies de la représentation, celles qui mettent le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, et qui se posent la question du rafistolage ou bien de l'élément qui, entre les deux, parviendront à permettre une correspondance de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, en partant soit de l'un, soit de l'autre, etc.
Bon, différence dans ces conditions y a-t-il entre vérité et réalité au sens où Heidegger l'entend ?
Entre la réalité, Heidegger, il se trouve que la question ne se situe pas exactement là. Il se trouve que pour Heidegger, la réalité n'apparaît. On est dans un domaine phénoménologique, donc le domaine phénoménal, la réalité n'apparaît que si la vérité de l'être le permet. Il se trouve qu'Être et temps est un ouvrage, comme vous le disiez tout à l'heure, étrange, parce que il y a d'abord son introduction et après il y a son développement, et l'un et l'autre ont l'air d'être deux problématiques totalement différentes. Il se trouve que dans l'introduction, Heidegger parle en permanence d'une vérité phénoménologique, d'une vérité ontologique. Il situe le Dasein face à cette vérité. Il pose un grand problème qu'il ne résoudra pas par la suite Être étant, chacun sait qu'Être étant est un ouvrage inachevé, non pas inachevé un petit peu, mais inachevé aux deux tiers. Bon, c'est
un peu comme L'être et le néant, d'ailleurs.
Oui, oui. Donc c'est très troublant de voir que Heidegger va se situer sur un plan ontologique. Il va très clairement dire, d'ailleurs, on parle d'ouverture, je maintiens le ur, on parle d'ouverture du Dasein, mais à la page 38, me semble-t-il, d'Être et temps, il y a cette phrase qui est mise en italique, la vérité phénoménologique, entre parenthèses, l'ouverture de l'être, est veritas transcendentalis. Donc, vous voyez, là, on se demande un peu où est Heidegger, qui après dévalorisera la langue latine d'une certaine façon en affirmant que la langue grecque et la langue germanique sont les deux seules langues philosophiques possibles, etc. Bon, et bien là, il est dans une espèce d'état, je dirais presque, de recherche, peut-être même, enfin, je ne veux pas faire une espèce de psychologie de son introduction, mais il se trouve qu'il est dans un état de confusion où il pose un problème qui est un problème ontologique. Il répond en disant que l'ouverture n'est pas l'ouverture pour l'instant du Dasein, mais l'ouverture de l'être, c'est donc bien l'être qui prend l'initiative d'ouvrir la vérité, c'est donc bien l'être qui est la vérité, et le Dasein répond. Autrement dit, l'homme se trouve dans une situation où il y a un plan qui est celui de l'être. Et là, on peut faire écho à ce que dira Heidegger à Sartre, encore une fois, dans la lettre sur l'humanisme. Il se trouve qu'il y a profondément une rupture avec une tradition qui avait été répétée et dépassée par Kant, c'est-à-dire que Kant est un homme qui a déjà inauguré la rupture de la séparation du sujet et de l'objet. Le problème de l'adéquatio est un problème que Kant a déjà en quelque sorte dépassé, puisque dans la critique de la raison pure, le sujet transcendantal est constituant, mais et c'est ce que lui reprocheront tous ses successeurs, il se trouve que Schelling, Hegel, Fichte, etc. vont essayer de revenir là-dessus, parce que Kant, lui, laissera la chose en soi, loin de la constitution, la constitutionnalité, je dirais, du sujet par rapport à la réalité.
Pour le dire rapidement, le processus de connaissance chez Kant repose sur la constitution de l'objet par un sujet.
Ben, oui.
Or, cette constitution de l'objet par un sujet...
Mais par un sujet qui n'est pas absolu.
Voilà.
Et surtout, par un sujet qui n'est pas, comme le dira Hegel, donc absolu. Mais justement, pour Hegel, qui pose les bases, je pense, de la pensée hegelienne future, au paragraphe 24 de l'encyclopédie, il est dit, dans une des additions, que la vérité est l'accord d'un contenu avec lui-même. Ce qui fait écho à la préface de la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle il était écrit cette phrase célèbre, « Le vrai est le tout ». Autrement dit, le tout, puis le rapport d'un contenu avec lui-même, enfin l'accord d'un contenu avec lui-même, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui précède, une vérité qui ouvre, une vérité qui donne, et l'homme est en quelque sorte saisi dans un éclair, et cet éclair, c'est lui qui va ouvrir précisément l'apparition des objets. Et à ce moment-là, il n'y a plus de différence, si vous voulez.
Si j'illustre ce que vous dites, dites-moi si je le fais correctement. Est-ce que si je vous dis, par exemple, que les lois de composition du mécanisme oculaire précèdent, par définition, le moment ou l'heure de leur découverte, et qu'en les découvrant, l'homme a accompli quelque chose qui le précède. Est-ce que reprendre ce que vous dites ou traduire ce que vous dites dans ces termes-là est conforme à l'idée que vous exprimez ici, Maxence Caron ? Au fond, il y a la vérité, ou la vérité est, je ne sais pas comment il faut le dire, et puis l'homme, d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais met des mots dessus.
Il y a, chez Heidegger, un mot qui est fondamental et qui est le Dasein, sur lequel on ne glosera peut-être jamais assez. Le Dasein qui n'est pas l'homme, mais
peut-être
qui est
ce
en quoi l'homme se trouve. Et dans Dasein, il ne s'agit pas de chercher des traductions à tout rompre, il s'agit de voir ce qui est écrit. Dasein, là, il y a de l'être. Autrement dit, dans l'homme, l'être, qui est un élément de mystère, s'ouvre précisément pour que l'homme puisse répondre à quelque chose de mystérieux qui éclot d'une façon véritablement troublante, qui vient créer de l'inquiétude, qui vient créer véritablement de l'étrangeté, qui vient créer une inquiétante étrangeté, une sorte de quelque chose qui paraît d'abord monstrueux et puis qui progressivement va conduire Heidegger à la sérénité, à la Gelassenheit. Bon, cet être qui éclot est pour Heidegger le champ même, le champ.
Vous l'écrivez comment ?
C-H-A-M, avec un M-P. Donc, il se trouve... Ce n'est pas un corps du Hölderlin. C'est un champ au sein duquel surgissent, après, ce qui va devenir visible. Donc, il n'y a pas à poser la question de savoir s'il y a d'abord la vision, à savoir s'il y a d'abord l'objet, à savoir si de la poule ou de l'œuf, etc. Bon, non, il ne s'agit pas de poser cette question. Il s'agit de voir que, dans un même acte, éclot... d'un côté l'homme éclot d'un autre côté ce qu'il regarde, et cet acte Heidegger montrera en progressant à travers son itinéraire qu'il s'agit d'une même parole, et cette parole prononcera à la fois l'objet et celui qui prononce l'objet, à savoir l'homme, et qui par sa parole circonscrit l'apparition de l'objet. En fait, c'est une épiphanie constante, la philosophie de Heidegger.
Alors c'est là, on est là à l'essentiel de la chose, hein, c'est-à-dire une forme d'ontothéologie au sens où vous parlez d'épiphanie. Si on va voir dans quelle mesure ça tient, Philippe Cabestan, sur ce point.
Moi, je voudrais partir peut-être d'un élément secondaire, mais qui ne l'est pas en réalité. C'est le fait que quand on lit Seinunzeit, être étant, on est confronté à aucune démonstration. Lorsqu'on lit Descartes...
Point commun entre Heidegger et Nietzsche, ça, pour le coup.
Il n'y a pas de démonstration. Hein. Lorsqu'on lit Descartes, les méditations, il y a la démonstration de l'existence de Dieu, et puis il y en a même plusieurs. Hein. Mais là, il n'est pas question de démonstration. Alors, de quoi est-il question ? Il est question de monstration. Pourquoi, justement, démonstration ? Ou encore, parce que ce serait peut-être un terme plus beau, il est question surtout de description. On décrit. Et là, je crois qu'on est au cœur de la question de la vérité. Parce que, qu'est-ce que la vérité, sinon... le dévoilement de ce qui est. Et je crois que pour comprendre cette idée de Heideggerienne de vérité, il faut vraiment se centrer sur cette notion de dévoilement. La vérité, c'est le dévoilement. Et décrire, c'est précisément une manière de dévoiler.
Qu'est-ce qui distingue, j'ai jamais compris, qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité, hein, je reprends cette expression, j'imagine Maxence Caron que vous adhérez à cette expression, qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité d'une option métaphysique, j'ai presque envie de dire standard ou banale, qui consiste précisément à dévoiler la vérité, à la mettre au jour, la faire entre guillemets apparaître sous le chaos de ce qui nous la dissimule. Philippe Cabestan, encore un mot là-dessus.
Je dirais simplement que, avec ce terme de dévoilement, Heidegger renoue avec ce qu'il pense être, alors, bon, après on peut discuter, mais ce qu'il pense être le sens originel de la vérité, c'est le terme grec d'aletheia. Et dévoilement traduit maladroitement, parce que peut-être il faudrait dire non-cellement, il y a des considérations.
Décellement.
Décellement sur le A de aletheia, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il tente de revenir à une entente, une compréhension originaire de la vérité, par rapport à laquelle, précisément, l'idée de la vérité comme adequatio intellectus et rei,
donc de l'intellect et de la chose, hein,
est une conception qui est non pas fausse, c'est ça qui est intéressant, mais dérivé. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que... Et là, on entre dans cette entreprise de déconstruction de la vérité. C'est-à-dire que le propos de Heidegger, c'est de revenir à un sens originel ou originaire de la vérité, comme aletheia, qu'il rencontre avant Aristote, chez les Grecs avant Aristote, et qui est en quelque sorte, si on suit ce que nous dit Heidegger dans Être et temps, qui est en quelque sorte perdu par Aristote et par sa définition de la vérité comme représentation, donc rapport entre l'énoncé et l'objet.
Donc il en irait du rapport entre ce sens originaire de la vérité et la définition classique de la vérité, de la même manière que chez Pascal, le lien qu'il y aurait entre l'émergence, la nécessité du divertissement dictée par la conscience tue du désarroi, ou chez Bergson, la façon dont la vie même produit des machines. Est-ce qu'on peut dire ça, Maxence Caron?
Non. Je ne crois pas du tout. Dans
ce
sens
que je
où
dis
la vérité...
est faux, non, en, non, vertu, en vertu pas d'une du définition tout. Traditionnelle
trouve,
de la vérité.
Il se trouve que la définition traditionnelle de la vérité, c'est celle que nous venons de dire. Simplement, la vérité chez Heidegger n'est pas seulement dévoilement. Et ça, il le dit très souvent, certes, il dit très souvent le mot dévoilement, mais il parle aussi de retrait. Et la vérité est retrait. Dans Aletheia, évidemment, Heidegger va beaucoup parler de l'Aletheia, mais il va aussi montrer en quoi l'Aletheia est toujours tributaire de cette parole grecque fondamentale présocratique, à savoir la phusis, qui est aussi l'éclosion. Donc l'éclosion, la l'Aletheia, nature. Voilà. Oui, on a traduit après par nature, mais dans nature, il y a nascor, il y a naissance, et donc il y a un dérivé de l'Aletheia, de la phusis comme fuein, dira Heidegger, c'est-à-dire comme éclosion. Il se trouve que le dévoilement des choses, le dévoilement, oui, certes, l'être va dévoiler de l'étang. Mais pour ce faire, l'être va devoir rentrer en retrait. C'est-à-dire que quand nous regardons l'étang, nous ne regardons pas l'être. Et Heidegger voudrait l'homme parvint à regarder le pli de l'être et de l'étang qui se trouve dans l'étang. Il voudrait que, tout simplement, la philosophie... tout simplement, oui, parvint une fois de plus à comprendre que dans un étang, eh bien, il y a une part d'ombre, une part de retrait, une part de Verborgenheit, de scellement, qui fait partie et qui, je dirais, mais qui coalesce avec le processus de dévoilement. Il ne s'agit pas d'un dévoilement non seulement d'une efflorescence, mais il s'agit d'un dévoilement qui, en même temps, simultanément, et c'est ça qui est difficile à penser, qui, en même temps, est retrait. Et j'ai presque envie de dire, pour illustrer ça de manière un peu concrète, parce que...
Il y a presque une érotique de l'être chez Heidegger, au sens où une robe dévoile ce qu'elle dissimule.
Et justement, et c'est là que ça me fait penser à Nietzsche, une phrase de Nietzsche qui est fondamentale, au début de Par-delà bien et mal, quand Nietzsche dit « à supposer que la vérité soit une femme ».
C'est le tout début, ça.
Voilà,
hein,
tout
c'est,
début.
Le, c'est le tout début,
à
c'est
supposer
le premier paragraphe.
Que la vérité soit une femme, il faut que les philosophes aient été bien un imbécile, en gros, pour, ou bien de bien mauvais courtisans, pour ne pas réussir à, en quelque sorte, à atteindre sa couche, ou à atteindre du moins à ce qu'elles se mettent nues devant eux. Et l'acte de Nietzsche sera véritablement d'essayer... de dévêtir cette vérité, du moins de mettre à nu Apollon pour que Dionysos puisse se trémousser derrière, alors que chez Heidegger, ce sera le contraire. Il faut que la vérité reste avec sa part d'ombre, il faut que la vérité reste dans son voilement, et au fait, le rôle du philosophe n'est là, il ne doit rien dévoiler du tout, il doit dévoiler ce qui se voile, et non pas dévoiler l'étang. Quand il dévoile l'étang, il doit montrer que dans l'étang, il y a une charge de gratuité, une charge de donation, et dans un don, effectivement, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, eh bien, vous-même, vous vous retirez, afin que ce don puisse être un présent. Eh bien, dans le présent, au sens temporel du terme, au sens qui intéressera Heidegger dans Ein und Zeit, dans Être et Temps, pardon, eh bien, dans le présent, dans ce don qu'est le présent, eh bien, l'être se retire pour que l'étant, la chose, puisse être présente seule dans sa finitude, dans sa présenteté. À ce moment-là, évidemment, l'être lui-même doit attirer l'œil pour montrer qu'il n'a rien à montrer. Et nous sommes donc dans une forme de philosophie nocturne qui, à la fois, inspire la terreur et la confiance, et qui aussi, en permanence, de l'angoisse de l'être pour la mort, et de l'angoisse à au laisser-être, comme dit Heidegger, au Seinlassen, vis-à-vis de ces éclosions que sont toutes les choses qui nous entourent. Donc il y a une sorte d'innocence et en même temps de peur devant l'innocence.
Il y a trois possibilités, peut-être trois versions de ce que vous dites, je ne sais pas, on va revenir sur tout ça. Ça fait penser un peu à l'énologie plotinienne, le discours plotinien sur l'un. L'un, qui dit Plotin, est au-delà de l'être et qui pourtant se manifeste dans l'être, pour peu qu'on sache un peu regarder. Ça me fait penser plus trivialement à un cadeau qui consisterait uniquement dans son papier, en fait, qu'on ne cesserait d'ouvrir, c'est-à-dire des papiers qui recouvriraient des papiers, et ainsi de suite, jusqu'au moment où, à force où le pain des pauvres chez Baudelaire, à force de l'émietter, finalement, il n'en reste plus rien. Je ne sais pas ce que vaut cette image. Et plus poétiquement, peut-être, étant entendu que peut-être à la poésie, dans une telle ontologie, revient le fin mot de l'histoire, ça me fait penser à Hölderlin. Écoutez.
Là-bas, dans le matin, depuis les Alpes ombreuses, le bateau, bien dirigé, s'approche et repose maintenant dans le port. La rive est chaude ici, et des vallées, amicalement ouvertes, illuminées de beaux sentiers, verdissent et luisent pour moi. Ce ne sont que jardins, et le bourgeon brillant point déjà, et le chant de l'oiseau invite le voyageur. Tout paraît familier. Les saluts qui s'échangent au passage paraissent venir d'amis. Tous les visages semblent parents. Et vraiment, oui, c'est bien le pays natal, le sol de la patrie. Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. Et ce n'est pas en vain que se tient comme un fils à la porte ceinturée de ressacs et regarde et cherche des noms aimants pour toi dans son champ un homme voyageant, bienheureuse Lindao. C'est une des portes hospitalières du pays, celle-ci, qui invite à partir vers un lointain de riches promesses, là où sont les merveilles, là où la bête divine de haut descend dans les plaines, le Rhin, trouant sa piste audacieuse et hors des rocs, traçant le Val jubilant, là-bas, à travers les monts clairs en direction de Côme, ou bien en bas, selon la courbe du jour, à traverser le lac ouvert. Mais plus forte encore est, pour moi, l'invite de ton charme, ô porte consacrée. À retourner où sont connus de moi des chemins en fleurs, à revoir le pays et les belles vallées du Neckar et les forêts, le vert des arbres sacrés où volontiers le chêne s'allie à la paix des bouleaux et des hêtres. Et dans les monts, un lieu ami me tient captif.
Cabestan et Maxence Caron sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Être et Temps.
Weiß, was ich leide.
Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. Le néophyte que je suis lit cette phrase comme une objection faite au volontarisme de celui qui, à force de chercher les objets, évidemment, se prive de les saisir, à force de ne pas les laisser venir à lui, se prive de les saisir. Est-ce que cette interprétation, Philippe Cabestan, Maxence Caron, vous semble légitime, Philippe Cabestan ?
Tout à fait, je crois que c'est une formule, ce que tu cherches, cela est proche, c'est une formule qui entre en consonance, si on peut dire, avec la conception heideggerienne de la vérité. Il ne s'agit pas d'aller chercher midi à 14h, pas du tout. Et en même temps, je retiens bien ce que vient de dire Maxence Caron, c'est que tout dévoilement est solidaire d'un voilement. C'est-à-dire que il n'y a pas, et ça c'est au cœur de la conception heideggerienne de la vérité, il n'y a pas de conquête de la vérité absolue, il n'y a pas de savoir absolu. Et je crois que ici, Heidegger rompt aussi avec ce qu'on peut appeler la modernité, avec une conception moderne de la vérité, dans la mesure où la modernité prétendrait non seulement dominer la nature, s'en rendre maître, pour reprendre la formule de Descartes, mais aussi la connaître parfaitement, comme si on pouvait la mettre à plat. Et il y a cette idée, qui est aussi, qu'on retrouve bien sûr dans la poésie romantique, qu'il y a, on peut dire, un secret, il y a des secrets de la nature. Il y a voilement et en même temps, il y a dévoilement et voilement. Et je crois que c'est très important aussi, même ne serait-ce que lorsqu'on s'intéresse à d'autres disciplines comme la psychiatrie, la psychologie, peu importe, en sachant qu'on ne peut jamais véritablement tout connaître. Il y a une sorte d'avertissement à l'égard de celui qui veut tout dire ou tout connaître ou tout savoir. Ce n'est pas possible parce que précisément, on est confronté à ce dévoilement et voilement qui sont solidaires.
Mais d'une façon assez pratique, d'ailleurs, on pourrait repérer cela dans le fait que bien souvent, la vérité est plus mensongère que le mensonge lui-même. D'ailleurs, quand Arsinoé va voir Alceste et lui révèle les turpitudes de Célimène, elle lui dit la vérité, mais ce qu'elle omet de dire, c'est les motifs qui lui dictent ce genre de paroles. Et qu'à cet égard, dans les faux aveux que les individus se font en général, ou les aveux que les individus se font en général, il y a d'autres intentions que celles qui sont mises à l'œuvre derrière le goût de la transparence. De façon générale, la transparence en elle-même est dissimulatrice. Maxence Caron, est-ce qu'un tel modèle, là encore, vous semble adaptable à ce qu'on dit ici ?
Le problème, c'est qu'avec Heidegger, il n'y a strictement aucun modèle qui peut malheureusement être pris dans la vie des objets, puisqu'il s'agit de porter...
C'est trop facile, ça.
Non, parce qu'il s'agit... C'est le questionnement même heideggerien qui consiste à aller derrière les objets pour savoir quelle est la condition transcendantale de leur possibilité. Donc on peut malheureusement très difficilement on peut très difficilement traduire Heidegger, que ce soit dans nos expériences quotidiennes. C'est pour ça qu'Attraitant est un livre qui rassure, parce qu'il y a de la description de vie quotidienne, alors que dans les ouvrages suivants, il n'y en aura plus. Donc il y en aura dans les cours, parce que les cours, évidemment, Heidegger reprendra certains
exemples. Œuvre de pédagogiste, un grand professeur.
Oui, c'était un grand professeur, mais simplement, de son vivant, ses cours n'étaient pas accessibles. Donc il n'a donné comme image de lui que celle d'un penseur qui allait vers ce qu'il y a de plus en plus irreprésentable, qui est de moins en moins susceptible d'être métaphorisé. Et il y a, d'ailleurs, très instructif sous nos yeux cette œuvre, ce petit poème de René Char qui s'appelle A. Martin Heidegger, AMH. Donc vraiment, je dirais que le nom de Heidegger fait le titre du poème, et où l'on a véritablement à la fois l'hermétisme de Heidegger et en même temps sa clarté, puisque chez René Char, on est toujours frappé, un peu comme chez Hölderlin, par ces phrases qui ont une syntaxe extrêmement claire et puis finalement qui disent des choses extrêmement complexes.
Mais sans vouloir le traduire justement, est-ce que l'idée ou la notion d'une lumière qui ne dissipe pas les ombres, mais qui les affirme, semble alors cette fois-ci une métaphore plus adéquate ?
Alors oui, alors là, sur la lumière et l'ombre et la nuit, etc., on peut, effectivement, puisque Heidegger lui-même a beaucoup joué sur le terme de Lichtung, dont le suffixe cette fois est en Ung, ce qui signifie un acte, et non pas en Heid, comme tout à l'heure, qui signifie un état. Voilà. Donc la Lichtung, c'est véritablement l'acte par lequel l'être va lichten, on va faire une phrase heideggerienne, die Lichtung lichtet, je ne sais pas s'il l'a dit, cette phrase, mais comment traduire Lichtung ? On traduit couramment par l'éclaircie, mais justement, alors en traduisant par l'éclaircie, on ne rend pas compte de cette espèce de pulsivité par laquelle il y a possibilité pour les étangs de paraître, de naître au jour. Bon, et cette éclaircie n'est pas claire. Ce qui vient derrière l'éclaircie pour permettre aux étangs de venir s'ébattre dans la clairière, je dirais, du monde, ce qui est derrière pour pouvoir donner à ces étangs leur rayonnement, eh bien, est totalement lui-même ombrageux, nocturne. Et donc, ce poème de René Char est très court. Il dit la chose suivante, qui est, au premier abord, totalement incompréhensible, l'automne va plus vite en avant, en arrière, que le râteau du jardinier. Premier vers. Deuxième vers, l'automne ne se précipite pas sur le cœur qui exige la branche avec son ombre. Bon. passionnant. C'est une description de toute la philosophie heideggerienne. Pourquoi ? Parce que l'automne, c'est évidemment la saison crépusculaire. C'est le moment où la lumière se retire. C'est véritablement, en quelque sorte, l'essence même de l'être, le fait de se retirer pour laisser paraître quelque chose. Cet automne va toujours plus vite que le râteau d'un jardinier. Et le jardinier, c'est qui ? C'est l'homme moderne, celui qui essaye de ratisser tous les objets pour qu'ils soient à sa disposition, pour qu'ils puissent en jouir, pour qu'ils puissent les consommer. C'est l'époque de la technique. Bon. Eh bien, l'automne va plus vite en avant, en arrière, quoi qu'il arrive, que le râteau du jardinier. Si on s'approche de l'objet, alors son fondement recule. Si au contraire, on laisse l'objet approcher, il va envahir, en quelque sorte, la réflexion. On ne pourra plus rien penser. Et alors, le deuxième vers, l'automne ne se précipite pas sur le cœur qui exige la branche avec son ombre, eh bien voilà, il se trouve qu'à Heidegger, sa pensée, et ça, Char, évidemment, était en communion complète avec cette manière de penser, le cœur qui exige la branche avec son ombre, le cœur qui accepte que la branche est sa part d'ombre, autrement dit que l'étang soit entouré d'un halo de nuit, ce cœur-là ne subit pas ce qui est automnal dans le retrait de l'être.
Dans le pays de René Char, les arbres sont libres de n'avoir pas de fruits, Maxence Caron.
Oui, mais nous parlons d'ombre. Hein. Et je dirais peut-être que le fruit de l'arbre pour René Char, en l'occurrence, ce serait l'ombre. Et l'ombre comme un fruit, ce serait une manière pour Heidegger de montrer que finalement ce retrait n'est pas seulement à voir de manière crépusculaire comme, comme une sorte de saison automnale, pas du tout. L'automne, c'est un côté un peu évidemment un peu triste, mais l'ombre n'est pas automnale au cœur qui arrive à voir dans le retrait de l'être un don. Et il n'y a pas de don chez Heidegger sans retrait. Pour que l'étang soit, il faut que l'être reste en retrait. C'est pour ça que le voilement, il n'y a pas d'abord un dévoilement puis un voilement, il y a une simultanéité des deux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter ces choses-là.
Mais vous voyez la difficulté dans laquelle on se trouve face à une telle œuvre. D'abord parce que c'est une œuvre qui critique la conception traditionnelle de la vérité, qui donc nous interdit, en un sens si on lui est fidèle, de nous situer par rapport à elle dans un rapport de sujet à objet, et donc dans un rapport d'explication de l'œuvre. Et c'est donc de l'intérieur qu'il faut en parler pour bien en parler. Mais comment bien en parler de l'intérieur tout en parlant à ceux qui se trouvent hors du cercle de l'œuvre? Comment, au fond, c'est comme les miracles, si vous voulez, qui ne s'adressent qu'aux croyants. Comment chercher le Christ sans l'avoir déjà trouvé? Comment comprendre être étant sans en parler de l'intérieur? Et je dis cela à dessein parce que ce que nous disons ici peut être légitimement entendu par nos auditeurs comme étant à la lisière du fondamental et du fumeux, et versé dans le fumeux comme dans le fondamental. On a le pressentiment d'un fondamental qui se donne à l'oreille de celui qui n'en a pas le lexique, sous une forme qu'il peut aisément désigner comme, oui, fumeuse, au sens où il y aurait de la fumée, véritablement, de l'opacité. Philippe Cabestan, sur ce point, et sur cette lecture, cette difficile lecture de Heidegger, cette difficile transmission de Heidegger.
Alors qu'on se rassure, Heidegger n'est pas fumeux. Donc,
Nous le savons, vous le savez plus que moi d'ailleurs. Mais précisément, comment faire ?
Comment faire ? Je crois aussi qu'il ne faut pas s'interdire une lecture, je dirais, historienne de Heidegger et se rappeler que le grand maître de Heidegger est Husserl. Et que Être étant a été écrit.
Lui-même avait d'ailleurs tendance à l'oublier, oui.
Il l'a peut-être opportunément oublié dans les années 40. Oui. Mais il faut quand même se souvenir que l'exergue de Être étant, je la cite, à Edmund Husserl en témoignage de vénération et d'amitié. Alors pourquoi je rappelle ce point ? Parce que cette conception de la vérité qu'inaugure ou que reprend, comme vous voulez, Heidegger, elle a d'une certaine manière ses sources chez Husserl, dans la phénoménologie husserlienne. Alors c'est un point bien sûr sur lequel les spécialistes discutent, mais on peut simplement attirer l'attention sur le fait que dans la phénoménologie husserlienne apparaît déjà l'idée d'évidence. Cette idée d'évidence, c'est-à-dire d'auto-légitimation. En quelque sorte, vous voyez, je retrouve l'idée que j'ai développée tout à l'heure sur l'absence de démonstration. Il n'y a pas à démontrer, il n'y aura même pas à argumenter, mais il y a à faire voir. Et je crois qu'ici, le texte de Heidegger n'est pas aussi... Il s'inscrit aussi dans une histoire. Il s'inscrit dans un courant. C'est le courant de la phénoménologie. Et Heidegger, d'ailleurs, en introduction, lui-même, rappelle ce qu'est la phénoménologie. Il rappelle que son texte lui-même s'inscrit dans la phénoménologie, qui a pour père fondateur Husserl. Et donc, bien sûr... Pour quelqu'un de néophyte, toutes ces considérations peuvent paraître très savantes ou fumeuses, mais il y a une possibilité de se repérer, je dirais, en prenant pour fil conducteur l'idée même de la phénoménologie, c'est-à-dire l'idée de monstration, de dévoilement, telle qu'elle apparaît déjà, d'une certaine manière, chez Husserl.
Maxence Caron.
Où l'on comprend, Raphaël, d'après vos paroles, que Platon demandait que l'on commençât la philosophie à 50 ans. Parce que le néophyte, finalement, est un homme qui doit beaucoup travailler avant de pouvoir accéder à ce qui est vérité et qui, par définition,
Vous êtes à quelques années du début.
Eh bien oui, c'est pour ça. Maxence. Mais justement, je prends mon élan et à 50 ans, je me dis, ça y est, maintenant je commencerai. Et à 50 ans, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais qu'à 35 ans, je pensais qu'il se trouve... que la définition même de la vérité, si nous la cherchons, c'est précisément parce que elle préexiste au questionnement qui pose précisément la question de la vérité comme son objet. Vous citiez Pascal tout à l'heure, et vous parliez du Christ juste après. On pourrait dire cette phrase de Pascal à propos de la vérité qu'il disait à propos du Christ. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé.
C'est exactement à ça que je pensais.
Voilà. Eh bien, je pense que de toute façon, pour Heidegger, la question ne se pose pas de savoir s'il y a des néophytes ou pas. Il disait au début de chaque cours, il n'y a pas besoin d'avoir lu mes œuvres pour comprendre ce que je vais dire. Il n'y a pas besoin de... Non, il s'agit juste de comprendre que l'être précède absolument tout. Que nous l'employons dans le langage courant, que quand nous voulons le définir, nous sommes obligés de l'employer, que même si nous contentons d'onomatopée pour désigner une chose, eh bien, le geste par lequel nous désignons cette chose eh bien, veut dire « c'est ». Cette chose est, etc. Donc, il se trouve que l'être est omniprécédent.
Mais cet être omniprécédent, cette obscure omniprécédence de l'être, Maxence Caron...
Cet obscur objet du désir, comme dirait l'autre. Mais eh bien, oui, il se trouve que cet obscur objet du désir précède le désir, sinon il n'y aurait pas de désir. Il y a un désir fondamental, et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il soit si difficile que cela de rentrer dans la pensée heideggerienne si jamais on part des bons textes. Et je pense qu'à ce titre, là, l'obstacle est immédiat si l'on ouvre Étretat. Mais, par exemple, si l'on ouvre le cours qui vient juste après Étretat, ou celui qui vient juste avant, à savoir celui qui vient juste après Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 1927, qui est un petit peu la suite directe, et celui qui vient juste avant, ou presque, les prolégomènes à l'histoire du concept de temps, qui vient d'être traduit, enfin, il y a quelques années, bon, il y a 2-3 ans, je crois, eh bien, ce sont des textes qui... disent très clairement les choses. Étretat est un volume extrêmement concentré, et après Heidegger écrira uniquement des textes très concentrés. Mais si l'on va dans ses cours, si l'on regarde la façon dont il s'exprimait, eh bien, on n'écrit pas une œuvre de plus de 100 volumes si jamais on n'a pas une volonté pédagogique extrême. C'était un professeur passionnant. Les gens le suivaient apparemment énormément dans ses cours et ressortaient de là en disant qu'il était incapable de dire de quoi il avait parlé, mais qu'en même temps, ils avaient bien compris de quoi il s'agissait. Et c'est là, en même temps, tout le mystère du voilement et du dévoilement. Si on doit faire des analogies, on en est exactement là. Heidegger parlait d'un élément qui se dévoile, donc on comprend très bien de quoi il s'agit, et comme le temps chez Saint-Augustin, on comprend très bien de quoi il s'agit, mais dès qu'on en parle, qu'on veut en parler...
On en a parlé mercredi dernier, oui.
Voilà. Mmh. Eh bien, exactement la même chose. On rentre dans le cours d'Heidegger, on entend parler de dévoilement, etc., on entend des choses qui sont très clairement dites, et puis on sort, et on est incapable, évidemment, de définir l'être. Mais on ne peut pas définir l'être, puisque définir, ça voudrait dire circonscrire. Dans définir, il y a finir. On ne peut pas circonscrire ce qui lui-même est la source inconnue, inconnaissable, et inconnaissable au sens classique du terme, c'est-à-dire non circonscriptible. La connaissance qui s'adresse aux étangs et qui les emprise, qui met la main dessus, qui porte emprise sur les temps. La connaissance, selon René Char, la connaissance du râteau du jardinier, eh bien cette connaissance de râteau de jardinier, Heidegger, il n'en veut pas. Il veut laisser, et c'est pour ça qu'il aime tant les poètes, il veut laisser être chaque étang dans ses contours, rayonner dans leur propre apparence,
justement,
dans leur propre phénomène.
Alors justement, donc leur propre apparaître au fond, ce fut comme une apparition, dont acte. Dans ces conditions, Maxence Caron, Philippe Cabestan, d'abord, j'en reviens à cette question traditionnelle, après tout c'est un reproche qu'on lui a fait aussi, puisque c'est un reproche que les philosophes se font les uns aux autres en général. Heidegger dit de Nietzsche qu'il achève la métaphysique ou qu'il en est encore tributaire. Qu'est-ce qui m'interdit de penser, ou qu'est-ce qui nous interdit de penser que Heidegger lui-même, avec cette obscure préséance qui se masque en apparaissant un peu à la manière dont les lunettes noires montrent qu'on dissimule, qu'on pleure quand on va aux obsèques, c'est le fameux exemple de Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Qu'est-ce qui distingue cette position d'une position, là encore une fois, métaphysique ou d'une antécédence de la vérité, de l'être, appelons ça comme on veut, sur les moyens qu'on met en œuvre pour la saisir et de l'impossibilité dans laquelle on se trouve, un peu comme Tantal, à force de tendre la main et qui voit le plateau de fruits s'éloigner, enfin la nourriture s'éloigner, de l'impossibilité dans laquelle on se trouve de la saisir à partir du moment où on la cherche. Qu'est-ce qui distingue Heidegger de ce discours-là? Et deuxièmement, qu'est-ce qui distingue, au fond, dans quelle mesure le système d'Heidegger peut-il ne pas, le système ou l'antisystème, ne pas culminer dans la conception poétique née de ce point dont parle Bergson, si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie, et j'ajouterais pour Heidegger, en 100 volumes, Philippe Cabestan.
Moi, je dirais qu'il y a chez Heidegger un geste très particulier. On peut prendre des comparaisons simples. Par exemple, Descartes, au début du discours de la méthode, enfin, au début des méditations, ou dans le discours de la méthode, peu importe, indique très bien que la tradition, il faut la mettre de côté. Et qu'on va recommencer à nouveau. Hein, c'est vraiment l'idée de cogito et, je dirais, de sujet, presque, je dirais presque de sujet autofondateur. Kant, au fond, renouvelle ce geste. Il renouvelle au sens où, avant lui, eh bien, il y a ce long débat du scepticisme et du dogmatisme, cette guerre qui laisse un champ de ruines, et que donc, on recommence à nouveau. Ce n'est pas du tout la thèse de Heidegger. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je m'attachais à souligner la dette de Heidegger. Heidegger a des dettes, et tout philosophe...
La notion de dette est très importante chez lui, d'ailleurs.
Toute pensée est en dette. On ne pense pas à partir de rien, on pense pas... On n'est pas soi-même. On n'est surtout pas un self-made man. Surtout pas. On n'est pas quelqu'un qui se fait soi-même, mais on est en dette, on s'inscrit dans une tradition. Et là, Heidegger a un geste très particulier parce que, justement, on l'a vu à propos de la vérité, ce qu'il cherche, c'est un sens originaire de la vérité que lui offre la tradition, mais que lui offrent les Grecs. Et donc ici, il n'y a pas du tout la volonté de dire « avant moi, rien ne vaut ». Au contraire, c'est tout la richesse du concept de déconstruction. C'est qu'il s'agit de déconstruire, c'est de montrer aussi la pertinence de la définition de la vérité comme adéquation rei, ainsi que la pertinence de la définition de la vérité comme évidence. Mais pour montrer cette pertinence...
Comme autant d'émanations explicites implicite.
Mais comme dérivées, comme ayant une signification dérivée par rapport au concept originaire. Et là, on voit bien que Heidegger a une position tout à fait originale par rapport à une certaine tradition un peu cavalière, je dirais, typiquement moderne, qui consiste à dire les anciens sont sans valeur.
C'est marrant quand même, parce que Maxence Caron, vous disiez tout à l'heure qu'à la fin d'un cours de Heidegger, les élèves sortaient émerveillés, sans être capables de dire de quoi ils avaient entendu parler. Je suis exactement dans cette position, on arrive quasiment au terme de la discussion.
Et nous n'avons parlé de rien.
Pas exactement, nous avons parlé du néant peut-être.
Mais le néant selon Heidegger, c'est...
En peu de mots. Hein.
Oui, très peu de mots.
À vous le mot néant, de la fin sur le néant.
Le néant, selon Heidegger, ce n'est pas du tout une notion négative, puisque c'est étymologiquement le né. Le non-ens, c'est le non-étant. Donc, c'est précisément la définition de l'être lui-même. Non pas que l'être soit le néant, pas du tout. Mais l'être, c'est précisément ce qui n'est pas regardable, ce n'est pas circonscriptible selon les données avec lesquelles nous pensons les temps. Donc, nous penserons... Heidegger veut penser effectivement respectueusement la tradition, mais la laisser à elle-même et lui-même inaugurer une sorte de pensée qui ne sait peut-être pas très bien quels sont ses assez fin, mais qui, parce que la fin, précisément, ne lui appartient pas.
Alors là, j'ai compris. On finit l'émission. La parole est à Hölderlin, c'est-à-dire à Daniel Mesguich, pour la dernière fois de la semaine. Écoutez.
C'est là qu'ils me reçoivent. Ô voix de la ville, de la mer. Tu touches, tu réveilles en moi un savoir appris dès longtemps. Pourtant, c'est bien eux encore, encore en fleurs le soleil et la joie pour vous, ô bien-aimés, et presque plus clairs dans le regard qu'autrefois. Oui, l'ancien est encore là. Cela croît et mûrit, et pourtant rien de ce qui vit là et aime n'abandonne la fidélité. Mais le meilleur, le fond qui, sous l'arche de la paix sainte, repose, il est réservé pour jeunes et anciens. Je parle en insensé. C'est la joie. Pourtant, demain et plus tard, quand nous irons et verrons dehors le champ vivant, sous les fleurs de l'arbre au jour de fête du printemps, j'en parlerai beaucoup, espérant avec vous, ô mes amis, sur le Père qui est grand, j'ai beaucoup appris, et j'ai gardé longtemps le silence sur lui, en qui le temps voyageur, là-bas dans les hauts, se ressource, et qui règne sur les monts, et nous accorde bientôt les dons célestes, et provoque un chant plus clair, et envoie beaucoup de bons génies. Oh, ne tardez pas. Venez, vous, gardiens, anges de l'année.
Hölderlin vous appelle, Adèle. C'est l'heure du journal. Bonjour à vous.
Je sens une grande pression. Bonjour, Raphaël.
Vous êtes l'ange de l'année, allez-y.
Quelle idée les philosophes de l'islam se font-ils de la philosophie ? Difficile de les lire sans se demander s'il s'agit bien de philosophie et on est facilement tenté de rejeter hors des limites de la raison la plupart de ces penseurs. On voit en eux des métaphysiciens, voire des mystiques, des sages inspirés, des visionnaires qui outrepassent les limites de l'usage légitime de l'entendement. Mais qu'est-ce au juste que la philosophie islamique ? La question vaut la peine d'être posée à Christian Jambet, spécialiste du sujet. Bonjour Christian Jambet.
Bonjour.
Qu'est-ce que la philosophie islamique ? Donc, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître en folio essai chez Gallimard. Un livre très utile, nécessaire même, puisqu'il prend le temps de présenter, d'analyser, de discuter avec ces philosophes islamiques et aussi de donner à connaître les notions principales qui traversent la pensée de ces philosophes. Alors avant de présenter tout cela, il faut préciser ce que signifie l'expression de philosophie islamique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela ? Quel est le fait de philosophes de confession musulmane, de personnes qui sont croyantes, religieuses et qui ont recours à la philosophie pour réfléchir à leur propre religion ? Ou en d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'une philosophie de l'islam ou une philosophie sur l'islam ?
C'est une philosophie en islam. Et c'est du moins ce qu'on peut soutenir, c'est la façon dont l'islam prend conscience de soi dans l'élément de la philosophie. L'expression elle-même est utilisée par les historiens depuis le 12e ou le 13e siècle, en islam même, pour désigner les gens qui pratiquent la même discipline que les Grecs, les anciens, donc qu'on appelle falasifa, et qu'on appellera ensuite d'autres mots, mais enfin qui d'abord ont une appellation qui vient même du grec, mais qui appartiennent au temps de l'islam. Donc ils ont quelque chose d'autre et de plus. Et ce qu'ils ont d'autre et de plus, c'est le fait d'avoir pour sujet le même sujet que l'on a dans la pensée, dans les pensées grecques, en particulier la question fondamentale de la métaphysique, qui est la question de l'étant en tant qu'étant et de l'être de l'étant, mais qui ont un autre objet, ou en tout cas un objet qu'ils essayent de concevoir plus ou moins en rapport avec la finalité propre de la métaphysique aristotélicienne, et qui est tout simplement donné par l'islam, par la révélation islamique. Alors évidemment, ce qui surprend, c'est qu'il puisse y avoir une telle conjonction qui d'ailleurs prend tout de même du temps pour s'opérer de la manière la plus profonde, entre quelque chose qu'on appelle une religion et quelque chose qui est la philosophie.
Mais justement, y a-t-il encore un sens à maintenir cette distinction entre les deux ? Alors, est-ce qu'on peut parler de religion spirituelle ou de spiritualité philosophique, enfin ?
En fait, on voit que dès le Xe siècle, c'est-à-dire dès l'œuvre des grands philosophes héritiers de la Grèce, Al-Kindi, Al-Farabi... Al-Kindi est antérieur, mais Farabi et Avicenne, le plus connu peut-être, et commence quelque chose qui est la construction d'un islam. Il ne s'agit pas de l'islam du commun. D'ailleurs, au fond, ce qu'on découvre dans cette affaire, c'est qu'évidemment l'islam est multiforme et que le mot désigne des réalités très différentes. Il s'agit d'une religion philosophique. Il s'agit du fait de penser... En d'autres termes, en termes philosophiques, les données de la révélation prophétique. Donc il y a évidemment cette prétention qui ne fera que croître et embellir dans les écoles successives de concevoir mieux que ne le font d'autres autorités, mieux que ne le fait le juriste, mieux que ne le fait le théologien du calame, c'est-à-dire de l'argumentation rhétorique, d'une argumentation d'ailleurs fondée elle aussi sur le concept, et mieux que ne le font d'autres disciplines, très importantes dans l'islam, par exemple le poète, de concevoir ce que c'est que la religion vraie.
Mais ce faisant, ces philosophes s'inscrivent à l'encontre de ce qu'a pu dire Pascal, par exemple, lorsqu'il distingue la philosophie et la religion comme appartenant à deux ordres non seulement hétérogènes, mais infiniment éloignés l'un de l'autre, et donc ne pouvant véritablement avoir une influence l'un sur l'autre.
Oui, alors il faudrait d'ailleurs s'entendre sur le geste pascalien, parce que Pascal congédie ce que d'autres plus tard, par exemple Étienne Gilson, appellera philosophie chrétienne. Ce que dit Pascal, c'est qu'il n'y a pas de philosophie chrétienne, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce que ce qui est au centre de la vérité, c'est le Christ, et que c'est l'imitation du Christ qui compte.
Voilà, il condamne le dieu des philosophes.
Hein, voilà, il accomplit là d'ailleurs quelque chose d'absolument prodigieux. Mais, je peux souligner à tel ou tel moment que ceux qui sont intéressés à la philosophie islamique comme philosophie de la religion ne sont pas du tout des gens qui relèvent d'une tradition comme celle de Pascal, mais plutôt de la tradition luthérienne. J'en prends au moins pour témoin mon propre maître, c'est Henri Corbin, et autour de lui, les gens de formation allemande. Donc, pour finir avec cette parenthèse, oui, il n'y a pas des ordres de vérité, mais il y a des hiérarchies fondées sur un modèle qui est essentiellement néoplatonicien. Alors, on pourrait dire que la religion du commun, l'islam du commun est au niveau de la nature et du sensible. L'islam du prophète, déjà plus intériorisé, mais dans son premier sens spirituel, est au niveau de l'âme, et l'islam des philosophes est évidemment au niveau de l'intelligence. Ce qui signifie d'ailleurs une prétention très remarquable à dire le vrai sur tout.
Oui, du coup, ça signifie également qu'on ne s'adresse qu'à un certain type de lecteur.
Oui, c'est la philosophie islamique et une philosophie de l'élite.
Ce qu'on dit. Voilà, c'est ça.
La philosophie de l'élite. C'est un partage, alors là, constant, depuis Avicenne jusqu'à Moulla Sadra au XVIIe et au-delà, encore jusqu'aujourd'hui, puisque c'est enseigné dans les écoles, dans les universités traditionnelles, là où il y a de la philosophie. Il y a le commun, l'élite et l'élite de l'élite.
Merci beaucoup, Christian Jambet. Je renvoie à votre livre. Donc, qu'est-ce que la philosophie islamique ? C'est vraiment passionnant. On y découvre une toute autre manière de philosophie et donc des nouveaux rapports entre philosophie et religion. Merci d'être venu en parler aujourd'hui.
Vive
Merci.
Le travail de Christian Jambet. Je suis heureux de le dire d'ailleurs devant lui. On finit avec vous, Adèle.
Eh bien, avec un livre passionnant sur les personnages, les grands personnages de romans, de théâtre, comme Don Juan, Médée ou encore Cléopâtre. Ces personnages sont souvent traités sous un angle littéraire et psychologique, comme des représentations de personnes réelles, dotées d'une conscience ou d'un inconscient. Eh bien, dans cet essai, la philosophe Martine de Godemar propose de réfléchir sur ces personnages à partir d'une orientation philosophique originale entre Leibniz d'un côté et Stanley Cavell de l'autre. Alors en quoi Leibniz peut-il nous être utile pour réfléchir à ces personnages ? Eh bien parce qu'en n'opposant pas la matière et l'esprit ou le sensible et l'intelligible, il décèle dans tous les êtres du monde une énergie qui sans cesse fait passer de l'être en puissance à l'acte, des virtualités agissantes à leur actualisation. Ainsi comprise, la théorie du personnage peut se porter vers l'expression, qu'elle soit textuelle, picturale, musicale ou encore cinématographique. Et on rencontre alors la philosophie de Stanley Cavell, qui, le premier, a montré la voie en travaillant à partir de films, de pièces de théâtre et d'opéra. En incarnant un monde possible ou désirable, ces personnages nous posent la question « Quel monde voulons-nous ? » Ils nous insufflent leur énergie et leur désir de vivre et nous ouvrent des possibilités d'existence en montrant différentes formes de vie. Voilà, réfléchir aux personnages de romans avec des philosophes, la démarche est alléchante et elle est brillamment menée par Martine de Godemar dans cet essai donc qui s'appelle « La voix des personnages » publié par les éditions du Cerf.
Ça fait plaisir pour une fois de vous entendre parler de Stanley Cavell, Adèle. Merci à tous, c'est la fin de cette semaine sur Être et Temps. Une semaine qui s'achève sur la nécessité fatale d'en continuer ou d'en reprendre l'étude, être étant perdu, être étant retrouvé, c'est l'ultime alternative de la semaine. Retrouvez-la cette semaine, dans la clairière d'Internet où s'ébattent comme autant d'étangs toutes les émissions de la semaine et qui s'offrent, ô amis auditeurs, à vos téléchargements. Quelques remerciements a cappella à l'issue de ce travail, toute l'équipe des Nouveaux Chemins naturellement que je salue avec amour, mieux avec amitié, mais aussi Philippe Cabestan, notre fil rouge de la semaine, merveilleux pédagogue dont j'envie les élèves, Daniel Mesguiche, la voix de l'être lui-même, le conservatoire de l'étang et nos invités bien sûr, Françoise Dastour, Jean-Luc Nancy, Catherine Malabou et Maxence Caron. Tous les travaux de nos invités sont encore disponibles en ligne. La semaine prochaine, on vous parlera de science-fiction de Jules Verne à Philip K. Dick en passant par La Guerre des Étoiles 1984 et Fahrenheit 451 à partir de lundi prochain. Allez, on rend l'antenne, 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.